Vous êtes sur RTL.
Titien.
RTL Matin.
Avec Yves Calvi.
Il est 7h43, excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Benjamin Sportouche, vous recevez donc ce matin El Hadji Gora Diop. Il est gérant d'un hôtel Formule 1 à Roubaix qui met à disposition des chambres pour les immigrés et les SDF de sa région.
Bonjour El Hadji Gora Diop, merci d'être avec nous ce matin sur RTL.
Bonjour.
Incroyable parcours que le vôtre, hein, le disait Yves Calvi. Vous avez aussi fait Sciences Po Grenoble, vous êtes journaliste de formation et donc depuis 20 ans à la tête d'un hôtel de Formule 1 à Roubaix, l'une des villes les plus pauvres de France. Et votre hôtel abrite pour partie des réfugiés, des sans-abri. Et tout cela a commencé en 2002 avec le SAMU social. Comment ça s'est passé? Comment ça a démarré? Est-ce que vous vous souvenez de ces premières nuitées un peu particulières?
Oui, gérant d'un hôtel Formule 1 en 2000, je démarrais et l'hôtel tournait comme n'importe quel autre hôtel du groupe Accor. Et on m'a amené 2, 3, 4 personnes pour 1, 2, 3 chambres dans le cadre de la maraude de la CMAO. La CMAO, c'est la cellule mobile d'accueil et d'orientation, et qui est pilotée par le 115. De fil en aiguille, bon, ça s'est dit que ça se passe bien dans cet hôtel et après ça a fait...
Ça a continué.
Ça a commencé comme ça.
Et depuis le 30 octobre dernier, la préfecture a réquisitionné et payé, et donc avec votre accord, bien sûr, près de 80% de vos chambres, centaine de personnes, dont des enfants.
Tout à fait.
C'est monté en puissance à ce moment-là avec la pandémie.
Tout à fait. Bon, en fait, il y a des personnes qui n'étaient pas à l'abri et qu'il fallait loger quelque part. Confinement oblige. J'ai été approché par les services de la préfecture de Lille. Ils m'ont demandé si j'acceptais la réquisition. J'ai répondu que oui, bon, puisque dans la foulée, j'avais l'habitude de loger des demandeurs d'asile, des réfugiés et des SDF. Bon, j'ai dit oui, et au moment où personne n'osait, puisque c'était un peu risqué quand même, et ma foi, ça s'est très bien passé. Je les accueillais le plus normalement du monde en leur offrant un toit et en leur offrant aussi à manger.
À manger, avec des associations. Vous travaillez avec des associations, voilà, les Restos du Cœur notamment.
Restos du Cœur, le Secours Populaire, qui sont très présents et qui apportent vraiment une bonne logistique.
Et ça se passe comment avec vos clients, dire traditionnels, ceux qui viennent, les 20% de chambres restantes? Est-ce que tout ce monde se parle? Est-ce qu'il y a des échanges? Est-ce que certains ne veulent pas rester aussi?
Oui, au départ, ce n'était pas très bien vu par certains clients. Bon, puisqu'habituellement, on vient dans un hôtel, c'est pour dormir. Ce n'est pas pour croiser des enfants comme ça. Mais ils finissent par comprendre que bon, chacun a droit à un petit coin de tranquillité. Et ils s'habituent. Et comme la règle d'or dans le groupe Accor, c'est la propreté, l'hygiène, la sécurité. Eh ben, ces règles d'or, je les ai respectées dans mon établissement. Ce qui fait que les personnes qui logent un jour, deux, trois comme ça, en côtoyant des familles, ben, ils en partent bluffés en disant ben, « ça s'est très bien passé, ma foi, on n'a pas eu de soucis, et voilà ».
Et certains reviennent même.
Certains reviennent même, actuellement, j'en reçois des clients.
Pour cette expérience.
Voilà.
Aussi.
Tout est dans l'accueil. Moi, je dis, quand on va dans des grands hôtels parisiens, on est accueilli personnellement, on vous connaît, nom, prénom. On va même jusqu'à connaître le nom de votre petit chien avec qui vous êtes. Donc, dans ces hôtels, moi, j'accueille un SDF. C'est normal que je connaisse son nom et son prénom. Un réfugié politique, il a un nom. Un réfugié tout court, il a un nom, un prénom. Et cet accueil-là, il n'est pas que donné à des grands hôtels, aux palaces. Moi, je le fais le plus naturellement du monde. Là, je peux vous citer des noms de personnes qui logent dans l'hôtel que je connais et ils sont contents quand je les appelle par leur nom et prénom.
Et vous habitez sur place, vous, avec votre épouse qui est professeure d'allemand et vos enfants aussi peut-être.
Voilà, mon garçon qui actuellement a 18 ans, qui est à la fac et qui fait technique de vente. Bon, qui sait, peut-être qu'il reprendra l'affaire, j'en sais rien.
Oui.
Et donc, c'est ma seconde famille, ces gens-là. Je les côtoie 24 sur 24, 7 sur 7. Donc, il est tout à fait normal que ça se passe bien et ça doit se passer bien. Et c'est pour ça que ça a plu aux autorités préfectorales.
Oui.
ce qui m'a valu la visite
j'allais vous le dire,
de la sous-préfète de Roubaix.
Ironie de l'histoire, tout de même, El Hadji Gora Diop. Vous qui un temps avez été sans papier, je le disais, dans ce
tout
pays,
vous
étiez à ce moment-là en école de journalisme, vous avez même fait un peu de prison. Eh bien, vous avez reçu la visite il y a une dizaine de jours de la sous-préfète de Roubaix. Et elle vous a dit que vous étiez un travailleur social.
Oui, travailleur social, ça c'est le quotidien local La Voix du Nord qui me l'a collé. Ça ne m'a pas déplu pour autant. Bon, j'ai dit, c'est quand même un peu fort, puisque travailleur social, c'est un métier. Voilà, il y a des écoles, il y a des diplômes qu'il faut faire pour être travailleur social.
Bon, qu'est-ce qu'elle vous a dit, là, la sous-préfète alors ?
La sous-préfète, elle était contente à l'idée que j'étais à l'écoute des personnes qui logent dans l'hôtel. Et quand elle est arrivée avec son staff, c'est moi qui ai guidé la visite. Je ne pensais pas que c'est moi qui devais le faire, puisque moi, hôtelier, simplement. Mais elle a accepté de me suivre et j'ai indiqué les quelques personnes que j'avais choisies comme ça au hasard, à qui elle a parlé, elle a demandé quels étaient leurs problèmes, comment ça se fait qu'ils étaient arrivés ici et tout. Donc la sous-préfète comprend très bien que dans ce pays, il existe des formes d'accueil et d'hébergement qui mettent à l'abri certaines personnes qui attendent d'être qui régularisées, qui traitées administrativement comme il se doit.
Vous qui... alors vous leur donnez une forme de dignité aussi. Vous, le musulman pratiquant, vous avez fait un peu créer une sorte d'arche de Noé, là, dans cette ce formule-là, vous diriez. De tour de Babel aussi, en même
oui,
temps.
Oui, les personnes, en tout cas les personnes qui logent à l'hôtel sont très contents de me voir tous les jours, m'occuper d'eux, leur parler. Et c'est ce qui fait qu'on me colle l'étiquette de travailleur social, puisque je ne leur demande pas à leur passé, je ne demande pas à savoir pourquoi ils sont là. Mais en me voyant, c'est eux qui viennent vers moi, ils me parlent, ils posent des questions. Et depuis qu'il y a eu ce truc médiatique là qui a fait que bon, ils savent un peu de mon parcours, ils se disent tiens, il a été sans papier et il est arrivé gérant d'un hôtel, comment ça se fait? Et là il me pose des questions, je dis attendez, ça remonte à plus loin, c'était en 87.
On vous a tendu la main à vous.
Peut-être
aussi,
les choses ont changé, puisqu'à l'époque, bon, sans papier, j'ai attaqué la décision du préfet qui m'a invité à quitter le territoire. J'étais inscrit à l'école de journalisme. J'avais pas quoi payer les frais de scolarité. Et j'ai dit non, je peux pas partir. Je demande qu'à étudier et à repartir travailler dans mon pays. Et là, en ce moment, la préfecture n'a pas obtempéré. Je suis allé au tribunal administratif. Le tribunal administratif m'a débouté. Et hop, je suis monté plus haut.
Plus haut.
Conseil d'État.
Et vous avez gagné.
Et le Conseil d'État a rendu un arrêt qui est publié, qui fait jurisprudence.
Et qui fait votre parcours en France aujourd'hui depuis plus de 30 ans.
Voilà.
Qu'est-ce que vous diriez, El Hadji Gora Diop, sur l'évolution de notre pays? On le dit de plus en plus fragmenté. Est-ce que notre rapport à l'autre s'est dégradé? Sommes-nous plus ou moins accueillants? Qu'est-ce qui a changé? Ou sur le terrain, est-ce que c'est mieux qu'on nous le dit, nous, ici, peut-être dans ces studios?
Ça s'est dégradé à certains endroits, mais il faut dire aussi que les personnes qui en sont victimes ne sont pas toujours informées de leurs droits. Et quand je dis ça, l'arrêt dont je parle, l'arrêt publié dans les recueils Le Bon, qui a fait jurisprudence, n'importe quel étranger en situation irrégulière doit s'adresser à des autorités en disant « Moi, j'ai ça et ça comme document et je dois pouvoir vivre dignement et légalement dans ce pays. » Mais il faut quand même être dans des situations où on n'a pas commis de délit, on n'a pas fait des choses qui sont répréhensibles. C'est parfois par méconnaissance du droit, de ces droits, qu'on se met dans certaines situations. Et il y a de l'amalgame, ça c'est clair.
Oui.
Il y a un rejet
de
l'autre.
Vous avez souffert cet amalgame, vous aussi?
Oui, oui, il y a ce rejet de l'autre, il y a l'amalgame qui est fait que l'étranger qu'on voit, c'est lui qui vient piquer notre pain, c'est lui qui n'est pas ici, qu'est-ce qu'il vient faire là? Il doit repartir chez lui. Et ça, c'est pas... ça ne colle pas aux valeurs de la République française. Moi, j'ai dit que c'est un pays qui a des valeurs, et ces valeurs, elles sont fondamentales, et n'importe quel citoyen de ce pays doit les respecter.
C'est ce que vous dites à ceux que vous recevez dans votre hôtel.
C'est ce que je leur dis, voilà. Ils ont une chance d'être dans un pays de liberté, et j'ajoute de fraternité, et cette fraternité-là, il faut la cultiver. Elle ne vient pas d'elle-même. Il y a des personnes qui n'ont rien à faire de cette fraternité, mais il faut leur dire que c'est dans l'entraide, c'est dans la solidarité qu'on arrive à fonder une société où il y a de l'humanisme quand même. Oui. Là, il faut tendre la main à ceux qui en ont besoin. L'entraide, c'est, pour moi, c'est le maître mot. Il faut aider.
C'est ça qui fait l'intégration. Vous considérez un peu comme un modèle d'intégration. Vous dites, voilà, moi, j'ai réussi, d'autres peuvent le faire et la France le permet encore aujourd'hui.
Tout à fait. Puisqu'en 87, quand on m'invite à quitter ce pays, je dis non, je ne peux pas quitter parce que je suis venu pour un but, étudier. Voilà, j'ai fait l'école au Sénégal, j'ai appris le français à bas âge. Et je viens, je cherche un diplôme, je ne cherchais pas à rester. C'est par la force des choses que je suis resté. C'est-à-dire, une fois régularisé, on m'a proposé la nationalité française. Bon, j'ai accepté. Et là, je suis là où je suis. Donc, moi, je dis oui, modèle d'intégration, qui veut me prendre comme modèle ? Je le lui donne, pas de souci. Et je trouve que chacun a la possibilité de se battre et de s'intégrer. Et j'en connais plein de compatriotes sénégalais, des experts immobiliers, de talentueux journalistes. Ici, dans votre maison, j'ai connu un certain Karim Fall qui a travaillé. Quand j'étais élève journaliste, je l'écoutais la nuit quand il faisait ses flashs de minuit. Et ça me plaisait beaucoup.
De l'entendre. Oui. Vous accueillez ces personnes pour venir à votre hôtel jusqu'à la fin de la trêve hivernale. Ça arrive vite, hein, c'est le 31 mai. Oui. Qu'est-ce qu'il va se passer pour eux après, Monsieur Diop? Vous appréhendez cette échéance?
Là, je crois que c'est ce qui a motivé la visite de la sous-préfète, c'est-à-dire préparer la sortie de cette crise sanitaire. Malheureusement, il y a bon nombre d'entre eux qui retourneront à la rue. Et ça, ce n'est pas une mince affaire. La sous-préfète en est très consciente et la vie continuera autrement pour eux.
Et vous dites aussi à vos collègues qui ont des hôtels, qui sont malheureusement vides aujourd'hui, ben, vous pouvez aussi, comme moi, donner des chambres. Ce n'est pas si compliqué, ça peut être aussi un moyen de se parler.
Tout à fait. J'ai accepté ça dans une période de crise. Les hôtels se sont vidés, 70% de perte de chiffre d'affaires. Alors que moi, bon, ça tourne bien de mon côté. Tant mieux, les autres hôteliers, oui, peuvent tendre cette perche à ces personnes-là en cette période de pandémie.
Merci beaucoup, Hélène Vigorin.
Je vous en prie.
Bonne chance à vous. Bonne journée.
Merci.
Demandeurs d'asile, réfugiés, SDF ont donc un toit et à manger dans le Formule 1 de Roubaix. Propreté, hygiène, sécurité, les valeurs du groupe Accor sont respectées, nous avez-vous dit. Et c'est dans la solidarité que l'on fonde une société. Merci infiniment d'être venu nous voir aujourd'hui sur RTL, Hélène Vigorin. L'intégralité de l'entreprise.